de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma et puis jouer. On va jouer aujourd'hui un blind test autour de la filmographie de Roche Dizem, Sophia. Mais pourquoi?
Mais c'est parce que je vais vous parler du dernier film dans lequel il a le rôle principal, 13 jours, 13 nuits.
Et puis c'est amusant, enfin amusant en tout cas, il faut le noter. Nous parlerons aussi d'un film avec Sami Bouajila. Donc on a là deux acteurs qui incarnent les acteurs maghrébins qui ont un peu ouvert la voie aux autres acteurs de la diversité. On les appelait comme ça, on les appelle plus comme ça maintenant, on les appelle des acteurs.
Non, surtout pour le Dizem, il y a une époque où il y avait 4 films par an avec lui quand même.
Il a beaucoup tourné.
Incroyable.
Oui, il a beaucoup tourné. Et moi, je vous parlerai donc de Rapace, film de Peter Dourounsis. Et puis toi, Guillaume?
Mais moi, c'est le choc horrifique du début de cet été, The Ugly Stepsister.
Mais commençons par Rapace. Des journalistes de Détective Magazine sont prêts à tout pour obtenir des informations.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît.
Madame, vous m'entendez?
Qui sont les rapaces du nouveau film de Peter Dourounsis qui avait signé Vaurien en 2021? Les premiers personnages que l'on voit, ce sont les journalistes du nouveau détective hebdomadaire rompu à l'étalage du fait divers, une presse qu'on appellerait volontiers de caniveau. Les techniques journalistiques qu'on aborde dès le début du film ne sont pas reluisantes. Samuel, interprété par Sami Bouajila, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvre le meurtre d'une jeune fille à l'acide. Il n'hésite pas à mentir, le personnage de Sami Bouajila n'hésite pas à mentir effrontément pour repartir avec un élément lui permettant d'écrire quelque chose, et s'il ment, c'est carrément au père de la victime. Son collègue, lui, Jean-Pierre Daroussin, s'introduit dans un appartement par effraction, mais ces deux journalistes, bien que naviguant aux frontières de la légalité, ne sont pas les rapaces du titre, ils sont au contraire les chasseurs. Enquêtant conjointement avec la police, ils en parlent de cette relation étroite entre eux et les policiers, ils tentent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent en cherchant à résoudre des affaires qui piétinent.
Une gamine retrouvée dans un champ.
Passionnel?
Je crois pas, ils étaient plusieurs.
C'est quoi votre journal?
Détective.
C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal.
Je pensais que ça nous rapprocherait.
J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle, elle était défigurée.
On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler.
Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a.
Le film se veut précis quand il suit des journalistes montrés du doigt par leurs collègues qui ont des sujets de société. Le parti pris du film est de se concentrer sur un féminicide et de faire le constat d'une oppression masculine à tel point qu'il en vient à manquer une séquence où il veut montrer combien les femmes sont harcelées dans les bars ou dans les rues. Alors c'est une séquence censée mettre en scène le non-respect du refus, mais j'ai pas entendu le refus. Ou alors j'ai eu un moment d'absence, mais j'ai trouvé ça complètement raté. Bon, c'est dommage et ce serait le seul bémol de ce long métrage qui veut beaucoup faire. Alors si on est d'abord plongé dans une enquête, voire deux, mais l'une d'entre elles avorte, et qu'on voit ainsi les ficelles du métier d'investigation, la dernière partie du film bascule dans le thriller, dans une longue séquence rondement bien menée par Peter Dourounsis, qui ne ménage pas son spectateur. Un père et sa fille sont alors en proie à des blancs suprémacistes.
Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense aurait pu être ma fille, alors que toi tu penses aurait pu être moi.
Plus personne n'utilise ça maintenant.
Je te reçois, Nemesis.
Surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on est né là où ils n'osent même pas mettre la main.
Pour ces enquêtes, le réalisateur choisit également de nous emmener dans la campagne du Nord. Il a recours à un très bel artifice scénaristique en plaçant les personnes que le journaliste traque dans l'univers des cibistes qu'on connaît peu et qui, alors ça fait l'objet d'une séquence, perd de sa pertinence avec les smartphones et l'Internet. Le film cultive l'étrangeté des situations et des rapports entre les individus. Il montre comment une rédaction un peu atypique s'organise et martèle un peu trop que les crimes sont le fait d'hommes et pas de femmes. Celles-ci sont bien souvent les victimes, évidemment. Le film déplace le coupable idéal, puisque le journaliste qui enquête est d'origine maghrébine, quand les assassins présumés sont tous blancs. Le réalisateur articule la première partie de son récit en considérant les seconds rôles, avant de s'en détacher, alors là, vraiment complètement, et de se resserrer sur le duo formé par le père et sa fille, quand il s'agit d'aller vers le thriller pour se concentrer sur un final apaisant. À part quelques faiblesses, ce long métrage a de belles qualités. Samy Bouajila y est impeccable, alors un peu moins Mallory Vanek, qui a plus de mal dans la retenue, plutôt habitué à des rôles explosifs.
Détective, c'est le journal bidon là, où tout est inventé.
Oui, y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement tout est vrai.
Arrête-toi! Arrête, je tire!
C'était prémédité, il voulait tuer.
Ah, un jour tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Tu joues au jeu puisqu'il y en a un qui te plaît. Ça marche sur lui. Sur tous les autres aussi.
Les Rapaces tient donc son rang de film d'ambiance en décrivant sous couvert d'un thriller social le milieu du journalisme des faits divers, sous-entendu eh bien, la mauvaise presse. Ce film est en salle depuis le 2 juillet. Les talibans sont de retour au pouvoir dans 13 jours et 13 nuits.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
On prend tous les disques durs, c'est clair ? On broie et on brûle tout !
Petite question, vous connaissez Letterboxd ? Alors peut-être que dans ce studio, mes collègues sont familiers de l'application. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un réseau social de cinéphiles où chacun peut noter, commenter ou parfois tailler un film avec plus d'inspiration qu'un édito des Cahiers du cinéma et certainement rien à envier aux plus grands chroniqueurs de Cinérama. Et parfois, il suffit d'un petit commentaire pour tout dire. Alors je cite Laywatch qui attribue à 13 jours, 13 nuits la note de 1,5 étoile. Sur 5, et écrit « J'ai une théorie sur les films qui se disent inspirés de faits réels. 80% d'entre eux sont de la grosse bip ! Film de gros white French saviorism nullos. » Fin de citation. C'est un peu excessif, peut-être, mais dans le cas de 13 jours, 13 nuits, pas tant que ça. Inspiré de l'opération d'évacuation menée par la France en août 2021 lors de la chute de Kaboul, ce film de Pierre Bourboulon, avec Roche Dizem, Lina Koudry, Sid Serabet Knudsen, transforme un drame géopolitique en thriller tendu. Résultat, on a un peu l'impression d'être face à un téléfilm, un de prestige certes, qui, à grand budget, 27 millions d'euros tout de même, rejoue une mythologie républicaine où la tragédie afghane devient le décor d'un récit purement français.
20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir.
Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer.
Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir.
Ouvrez les portes !
Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter.
Août 2021, les talibans reprennent Kaboul, l'Occident évacue. La France organise le rapatriement de ses ressortissants et de plusieurs dizaines d'Afghans et le film suit cette mission côté ambassade à travers le regard de Mohamed Bida, capitaine de police chargé d'exfiltrer une centaine de personnes dans un chaos logistique et diplomatique total. Ainsi, 13 jours, 13 nuits ne raconte pas l'Afghanistan, il raconte des Français en Afghanistan. Le regard ne dépasse jamais vraiment l'ambassade de France et lorsqu'on en sort, c'est pour rejoindre une autre enclave, l'aéroport sécurisé par l'armée américaine. De lieux fermés, de bulles de pouvoir autoritaire où le récit s'enferme et où les Afghans, pourtant premiers concernés, ne sont jamais vraiment sujets mais accessoires narratifs. Bida, incarné par un Roche Dizem sobre et solide, porte le récit sur ses épaules mais autour de lui, les autres figures frôlent la caricature. Lina Koudry en interprète franco-afghane peine à convaincre. Sid Sebabet Knudsen campe une reporter britannique stéréotypée et les Afghans, relégués à l'arrière-plan, simple ressort narratif pour faire avancer l'action des Français, un déséquilibre qui irrigue tout le film.
The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now.
On peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux.
peut me tirer dessus à tout moment s'il veut.
You can solve the problem by helping us to evacuate.
La mise en danger des personnages semble avant tout pensée pour faire vibrer le spectateur ou spectatrice occidentale, pas pour interroger le chaos politique de ce retrait militaire précipité. Il y avait pourtant matière, car l'histoire réelle de l'exfiltration menée par le capitaine Bida est bouleversante, complexe, à la fois humaine et politique. Mais ici, la volonté de créer un film à l'américaine, type blockbuster avec les ressorts qu'on connaît, action, enjeu, émotion, prend le pas. La grandeur du réel se trouve noyée dans les facilités du scénario et la mission devient fable morale, avec une France, bien sûr, qui en sort glorifié. Martin Bourboulon, déjà aux manettes de fresques historiques comme Eiffel ou Les Trois Mousquetaires, confirme son appétence pour les récits d'envergure à l'ambition populaire. Et il faut le dire, la tension fonctionne. La menace des talibans est omniprésente et le surgissement d'un kamikaze de Daesh dans la foule afghane n'est pas sans impact. Mais ce suspense bien tenu mise sur un récit qui rassure plus qu'il n'informe ou ne questionne et ancre une posture de sauveur blanc. L'occidental, en sauvant les autres, finit toujours par se sauver lui-même. Le réel, les nuances, les rapports de domination s'effacent au profit d'un récit héroïque, confortable. Même la photographie, avec son filtre jaune exotisant, participe à ce regard distancié presque colonial. Alors oui, ce film fera peut-être vibrer ceux qui veulent croire que la France agit toujours avec grandeur, courage et dignité. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé à Kaboul en 2021, il y a des documentaires sympas. Mieux vaut revoir par exemple Kaboul Chaos, Fuir l'Afghanistan ou écouter le témoignage du commandant Mohamed Bida, lui-même dans le podcast Passage.
J'ai un plan pour sortir de là. Et tout seul, j'y arriverai pas.
Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles.
On aurait aimé que le cinéma français se montre à la hauteur de cette histoire et pas seulement à la hauteur de ses propres fantasmes.
Ce film était présenté à Cannes, hors compétition, voilà ça. Et il est actuellement dans les salles. Il nous donne l'occasion, puisque Roche Dizem est son interprète principal, de jouer un blind test avec la filmographie de cet acteur français, acteur et réalisateur. On aurait pu jouer aussi avec sa filmographie, parce qu'il a fait plus de 5 films. Donc c'est plus de 38 ans de carrière, à peu près plus de 100 films, en tout cas collaboration, que ce soit série, film, téléfilm, enfin voilà. Il est effectivement très présent, notamment depuis ces 15 dernières années dans le cinéma français.
Je me rappelle en particulier d'une édition à laquelle on avait participé du Cinémed, où je crois qu'il y avait pas loin de 4 films la même année, au même festival, où il était
dedans.
Oui, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, bon, principalement en tant qu'acteur, mais c'est 4 films, c'est beaucoup.
Oui. Allez, c'est parti, c'est le blind test, c'est 5 extraits, et il faut trouver évidemment le titre, premier extrait.
Qu'est-ce que je fais ici?
Ton petit frère m'a dit que tu voulais me parler.
Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous me voulez?
Le nom de celui qui a balancé le molotov. Parle ou je vais être obligé de te faire porter le chapeau pour le feu.
Je m'en tape.
C'est bien. Ta mère va adorer ta réponse. Mais tu t'en tapes aussi. Finalement, t'es bien, toi, à Londres, t'es en sécurité. Mais ta mère et ton petit frère dehors, c'est moins sûr. J'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose.
Vous me dégoûtez.
Je te dégoûte? Et toi, tu me dégoûtes pas, toi, quand vous mettez à 15 pour lâcher et brûler mon frère? Balance, bordel. Tu n'as pas payé pour un autre qui se la fait belle dehors, t'es pas aussi con.
Eh ben c'est trouvé, Guillaume.
C'est Tête de Turc.
Oui, film de Pascal Elbé de 2010. Un adolescent de 14 ans, un médecin urgentiste, un flic en quête de vengeance, une mère qui se bat pour les siens, un homme anéanti par la mort de sa femme, voient leur destin désormais lié dans ce film. 254 000 entrées en France. Allez, on continue ce blind test. Je vous le rappelle, il faut trouver un film dans lequel on retrouve Roche Dizem.
Putain, on est pas dans la merde.
C'est
là.
Toi qui es pas dans la merde. Hein?
Avance.
Qu'est-ce que vous cherchez, Marek?
Je vais retrouver les enculés qui ont massacré mes équipiers.
Et après, je m'en occupe tout seul, c'est ça?
Parce que vous, ça vous rend pas dingue tous ces mecs sortir aussi facilement, parce que moi,
je
suis dingue!
Je sais qu'au bout du compte, ils seront tous condamnés. Alors, je suis patiente, question d'expérience.
Vous expliquerez ça aux enfants de Paoli.
Oui, c'est ça, je suis une bleue, c'est le premier collègue que je perds. Si chaque fois que des voyous s'en tirent, l'un d'entre nous les flingue, vous imaginez le carnage? Allez vous reposer, Marek.
Pas question.
C'est un conseil d'amis, Marek. Prenez des vacances et revenez-nous les idées claires.
Alors, c'est qui ce Marek? Alors, voilà, c'était dur de trouver un dialogue parce qu'il n'a pas plus de 20 secondes de dialogue. Enfin, il est de tout, quasiment de tous les plans, mais il parle très peu. C'est plutôt un film d'action.
Récent.
Comment ?
Récent ?
Non, pas si récent que ça, mais...
Parce
mais...
que j'en ai un en tête récent, donc je garde ma cartouche,
alors,
mais...
Alors non,
parler,
mais
c'est
un film... Et la voix de l'actrice, c'est...
Oh, je ne la connais pas. Okay. Alors, en revanche, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui, et il est question de drogue et de vitesse.
Ah, c'est Go Fast ?
Oui.
Ah, je m'attendais du coup à un autre extrait. Je pensais à ce film-là, mais je m'attendais à un autre type d'extrait plus explicite sur les voitures, en fait.
Bah non, c'est pas fait. Film de Olivier Van Hofstadt de 2008. Marek, un officier de police judiciaire, perd son collègue et meilleur ami lors d'une opération contre un réseau de trafiquants de drogue et il va infiltrer un réseau de trafiquants utilisant les Go Fast. 678 000 entrées pour ce film en France. Troisième extrait de ce blind test. Nous cherchons un film avec Roche Dizem.
Monsieur Lacaze, je vous ordonne de quitter les lieux.
Vous m'ordonnez ?
Oui. Un maître d'armes ne se bat pas contre les institutions qui font la grandeur de la France. Vous battre contre un de mes amis, c'est honteux ! De quel droit osez-vous salir ma réputation ?
Depuis que vous avez racheté cette salle d'armes, vous y avez amené l'esprit d'un boutiquier. Nous n'avons pas la même conception de la grandeur de la France, ni la même conception de l'amitié, monsieur.
Vous n'avez pas honte de vous comporter comme un mufle ?
Je préfère les mufles aux poules qui caquettent dans la basse-cour des politiques.
Je vous demande réparation!
Et la réparation, c'est un combat de sabre ou ça peut être un tir au pistolet.
Non, je pensais à Blanche de Bernie Bonvoisin, mais parce que c'est aussi en costume avec lui.
Non. Alors, c'est un film très récent, hein, 2023. Nous sommes en 1887. Il incarne un maître d'armes et à cette époque, eh bien, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Un maître d'armes, donc.
Pas le dernier duel, quelque chose comme ça.
Une affaire d'honneur.
Une affaire d'honneur.
Voilà. Et donc, Roche Dizem, qui incarne un maître d'armes, va s'allier avec une féministe audacieuse pour l'époque. Et en revanche, eh bien, ça n'a pas tant convaincu les spectateurs qui étaient 192 000 à aller voir ce film.
J'ai
De Vincent Pérez. Voilà. Allez, quatrième extrait de ce blind test.
Coach pas ?
Non, rien.
Si, si, vas-y, balance.
Non, mais je...
Mais t'as l'air de savoir un truc que je sais pas. Vas-y, dis.
Mourad.
Ouais.
Ça me regarde pas, c'est entre vous.
Non, ok, ça te regarde pas, mais vas-y. Et pas de ça me regarde pas, dis-moi ce que tu sais, et puis...
Je suis désolée, je croyais que tu savais.
Je sais quoi ?
Mourad, tu vois bien, c'est bizarre, tu vois, je suis là, tu rentres, tu sors, t'as les clés...
C'est lui qui m'a donné les clés, si
ouais, d'accord, mais là, maintenant, les choses ont changé. On est ensemble, c'est plus pareil, il a envie d'avoir des expériences nouvelles, il a envie de voler de ses propres ailes, et puis même toi...
Il t'a dit ça ?
Oui, il m'a dit ça, il m'a même dit que tu le savais, que vous étiez d'accord, que tu trouvais ça bien pour toi, pour lui...
De quoi tu parles ? Mais arrête, de quoi tu parles ?
Non, mais je sais pas...
Tu sais rien du tout ?
Non, mais c'est ce qu'il m'a dit.
On est bien d'accord, d'accord ? Toi, tu viens, tu débarques, là. Nous, ça fait 15 ans qu'on est sur les routes, on a fait le Tour de France pour 3 francs 6 sous, on a fait des Tourcoing-Lille à pied sous la pluie, t'étais où, toi, à ce moment-là ? Toi, tu viens, tu prends le train en marche, t'es une pique assiette !
Ah voilà, bah, c'est dit. Et puis ça dure longtemps, hein, je peux vous l'assurer. J'ai coupé la séquence. La prise de tête, elle est longue. C'est un petit film, 100 000 entrées en France. Film de 2017. Brahim est un humoriste en pleine ascension, mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Et Roche Dizem joue ce grand frère. Et là, il donnait la réplique à Maïwenn. Et c'est le prix du succès de Teddy Lucie Modeste.
Non, pas vu non plus.
Oui, je ne l'avais pas vu, hein, non plus.
Mais bon. Il fait 4 films par an, ou 5 ou 6.
C'est vrai.
Il y en a quelques-uns qui passent un peu sous le radar, malheureusement pour les producteurs, j'imagine. Ouais.
Bon, ouais, ce dernier extrait ne passera pas sous le radar, à mon avis.
Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent ?
Toujours.
Comment vous faites ?
Je sais pas. J'essaie de penser comme eux.
Vous avez été flic ici ?
Ouais.
Et après ?
Après, 2 ans de formation à Saint-Cyr, au Mont d'Or.
Vous avez une famille ?
Non. Bah si. Tout le monde a une famille.
Ils doivent être fiers de vous ?
Pourquoi ?
Vous voir commissaire ? C'est beau.
Mon grand frère habite plus ici et tout le monde est rentré au bled.
Toute la famille ?
Tous.
Ah oui. Pourquoi ?
Mauvaise question. La question, c'est pourquoi moi, je suis resté. Où voulez-vous que j'aille ? Ici, c'est toute mon enfance.
Alors, un commissaire qui ne serait pas rentré au bled, je pensais que ça serait trouvé. Film de 2019 qui se déroule à Roubaix.
Roubaix une lumière.
Eh oui, il y a Roubaix dans le titre, voilà. Donc là, c'est trop simple.
C'est facile.
Donc c'est un soir... tu dis ?
Avec l'indice, c'était facile.
Oui, oui. Un soir de Noël, Daoud, le chef de la police locale, et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d'une vieille dame. film d'Arnaud Desplechin et qui a valu à Roche Dizem le César du meilleur acteur. C'est pour ça que je voulais terminer avec ce film qui a réuni 393 000 spectateurs en France. Et si je peux dire quelque chose sur Roche Dizem, alors c'est un acteur quand même que j'ai plusieurs fois côtoyé lors d'interviews, de conférences de presse. C'est un acteur qui c'est quelque chose que je révèle comme ça, à force de voir des acteurs, des comédiens, j'ai l'impression qu'ils sont toujours plus petits que sur l'écran. Alors, Romain Duris, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est minus ? Enfin, c'est pas possible. Et Roche Dizem, c'est totalement l'inverse. C'est quelqu'un qui est vraiment très impressionnant, qui a une espèce de force. Il a une espèce d'évidence. Enfin, voilà, quand on le croise, on lui dit bonjour. Voilà, donc, c'était le blind test concernant Roche Dizem, puisque nous parlions d'un film que Sophia, par ailleurs, n'a pas trop défendu, 13 jours, 13 nuits, de Martin Bourboulon. Allez, un conte sadique qui dresse le portrait d'une des demi-sœurs de Cendrillon, on pourrait dire ça, hein, de Ugly Stepsister.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Votre nom ?
Elvira. En fait, c'est ma demi-sœur, voyez-vous.
Amateur des contes de fées, vous trouverez dans The Ugly Stepsister soit votre bonheur, soit votre pire cauchemar. Alors, il faut dire que pour son premier long métrage, la Norvégienne Emily Blichfeld n'a pas fait dans la dentelle et s'amuse à découdre à coups de hachoir celle des princesses archétypales occidentales devenues, à force de répétitions et de mièvreries aseptisées, des clichés vidés de leur substance primale, bien loin de la portée éducative, morale et même hautement distrayante des récits dont elles sont l'étendard. Alors, comme son nom l'indique, The Ugly Stepsister désigne une belle sœur moche, littéralement, et si vous venez de suivre ce que je viens de dire, vous aurez vite fait le rapprochement avec les célèbres belles-sœurs de Cendrillon. Alors celle-là même qui débarque dans la vie de la jolie jeune femme qui va vite devenir une petite souillon aux yeux de sa belle-mère et donc de ses deux sœurs lorsque son père meurt juste après ses secondes noces et qui vont se retrouver en concurrence lors d'un grand bal ayant pour but d'éblouir afin de l'épouser le beau prince charmant.
Oui, j'aimerais l'épouser. Le prince. Oh, regarde-toi dans le miroir, ma chérie. Ceci, mes chères demoiselles, pourrait bien être l'événement le plus important de votre vie.
Deux, trois.
Tu seras la plus belle au bal, crois-moi.
Sauf qu'ici, il n'y aura pas un traitement classique du conte connu et canonisé par l'exceptionnelle version animée de Disney en 1950. Alors ici, la réalisatrice a choisi la déconstruction totale de nos attentes et donc de nos repères. The Ugly Stepsister prend le parti pris fort de raconter l'histoire du point de vue d'un personnage secondaire, souvent caricaturé comme méchant, c'est-à-dire l'une de ses demi-sœurs, car dans le film, l'une d'entre elles a été spécifiquement choisie par la marâtre, car l'autre, plus jeune, n'a pas encore saigné. Ambiance. Le but d'Emily Blichfeld, en redonnant une voix à cette figure plutôt annexe dans le canon de l'histoire et d'interroger les récits dominants et la manière dont ils façonnent notre perception du bien et du mal. Cette approche offre donc une réflexion sur l'identité, la souffrance silencieuse et le besoin de reconnaissance. Car The Ugly Stepsister, c'est en grande partie un grand chemin de croix que va traverser Elvira. Condamnée par sa mère à être la plus belle pour aller danser, elle va subir toutes les pressions possibles et inimaginables pour se plier à ses désirs et à ceux prétendu du prince charmant, avec tout ce qu'il faut comme torture physique, comme de la chirurgie esthétique moyenâgeuse, par exemple. Alors si cela ne suffisait pas, il y a également tout un conditionnement psychologique indigne du traitement Ludovico d'Orange Mécanique, car Elvira va prendre à cœur de vouloir être la plus belle. Elle ne l'a pas demandé, mais elle devient persuadée que toute sa vie va se positionner sur la réussite du fameux bal dansant, ce qui va l'aider à perdre d'autant plus tout sens des réalités. C'est la grande force et l'intelligence même de The Ugly Stepsister de taper sur littéralement tout le monde. Il aurait été facile, comme dans pas mal d'œuvres contemporaines, de ne charger que le regard masculin comme étant la source de tous les problèmes. Le prince est d'ailleurs montré, bien évidemment, de manière peu flatteuse, lui qui charme par ses poèmes écrits, mais qui est introduit en urinant dans la forêt et ne semble voir les femmes que comme des gros bouts de viande. Mais il y a aussi le poids du patrimoine génétique qui fait qu'Elvira est moins naturellement gracieuse qu'Agnès. Alors Agnès étant le nom de Cendrillon dans le film, ce dont elle n'y peut bien évidemment évidemment rien. Il y a bien sûr l'horrible marâtre qui envoie sa fille à la boucherie sans aucune considération affective pour elle et qui a tous les traits d'une mère maquerelle. L'une de ses professeurs l'invite même à s'empoisonner avec un ver solitaire pour être plus mince. Même Cendrillon est loin de la pureté virginale préconisée par le comte puisqu'elle se fait trousser dans le foin par un rusto qu'elle largue pour le prince qui est un bien meilleur parti. Alors le peu de sororité qu'expérimente Elvira, c'est via une sœur... Le peu de sororité qu'expérimente Elvira, c'est via une sœur qui arrivera à s'émanciper, mais sur le tard, vous vous en doutez. The Ugly Stepsister est très, très graphique et littéralement tout ce qu'on n'a jamais pu et su faire Disney lors de ses relectures récentes de leurs mythes. Et surtout lorsque la firme aux grandes oreilles avait essayé de faire un temps des méchantes, des héroïnes comme dans Maléfique ou Cruella, tuant toute ambiguïté. The Ugly Stepsister signe le retour réussi et adulte du mythe en Europe, et en cela est très proche du crépusculaire et sublime La Belle et la Bête du tchécoslovaque Juraj Hertz. Alors, c'est vraiment à voir, mais surtout pas en emmenant votre petite sœur. Et je préciserai que ce genre de film est très compliqué à tourner, je pense surtout pour les actrices. Il y a tout un jeu du corps, il y a tout un jeu, j'allais dire presque hystérique. Il faut y arriver à être crédible et puis je pense tenir le tournage parce que là, la pauvre Elvira, quand je parle de chemin de croix, c'est un chemin de croix.
Oui, elle a une espèce d'appareil qui lui tient la mâchoire. Enfin, voilà,
entre autres.
Donc, The Ugly Stepsister, et si on n'arrive pas à le dire, on peut dire donc la belle sœur moche, ouais. Puisqu'il y a une VF qui existe. D'ailleurs, c'est très étrange que les distributeurs n'aient pas choisi de franciser ce titre qui est au Québec.
Peut-être au Québec, voilà ce que je veux dire.
Allez, on termine ce cinérama avec un petit film, Cap sur l'île Dieu, une île dont il est bon de partir. Le bonheur est une bête sauvage, nous en parlons maintenant.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Bertrand Guéry en pince pour l'île Dieu. C'est déjà dans l'île vendéenne qu'il avait filmé son premier film Mes Frères, sorti en 2018. La sortie en avait été confidentielle, comme celle de Le Bonheur est une bête sauvage, son nouveau long métrage qui fait partie de ses films, alors tourné avec peu de moyens et modestement distribué. Mais il l'est à Gournay-en-Bray, Périgueux ou encore Arèche, Agen ou Grenoble. Le réalisateur livre une histoire autour du deuil. Alors sur l'île Dieu, une mère de famille et son frère ont disparu il y a quelques années en mer. Le fils s'en est remis, compte bien rejoindre Paris pour devenir acteur, mais sa tante, elle, est toujours dans le deuil. La nuit venue, elle enfile une peau d'ours et va dans la campagne, créant de l'étrangeté, du fantastique et de la déstabilisation dans cette petite communauté.
Le 23 avril 2013, ce jour-là, j'ai perdu ma mère. Mais le truc, c'est qu'elle s'est noyée avec son frère, Jorgen. Mon oncle, le mari de Jeanne.
Moi, je voulais pas qu'ils y aillent. Et on m'a traité de rabat-joie, on s'est moqué de moi, mais je savais que c'était de la folie.
En même temps, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais ça tient. Ça tient ici sur l'île, car on vit tous avec. Ou plutôt sans. Sans maman et sans Jorgen.
C'est en usant de poésie que Bertrand Guéry développe son histoire avec peu de personnages et en privilégiant une forme esthétisant les échappées nocturnes avec des images de nuit américaine. C'est une histoire de résilience, de renoncement à la vie pour une femme qui vit un deuil. Et puis c'est aussi la renaissance grâce à son neveu qui lui a le désir donc de partir pour la capitale. Les gens qui sont autour de cette femme vont lui permettre d'accomplir sa métamorphose qui va lui permettre de comprendre qu'il faut continuer à avancer. C'est une sorte de message d'espoir qui traverse ce film. Alors je l'ai dit déjà, réalisé avec des petits moyens, il y a une espèce de douceur, beaucoup de poésie, voilà, il y a un peu de tendresse à avoir vis-à-vis de ces productions. Alors j'ai pu rencontrer le réalisateur qui m'a dit que il avait reçu à peu près, enfin exactement le même salaire que tout le monde. Tout le monde était payé le même prix sur ce film. Voilà, c'est pour un peu décrire l'ambiance de ce genre de projet. Nous parlions du Bonheur est une bête sauvage dans quelques salles en France.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
C'était la dernière émission de la saison de Cinérama, mais ne nous quittez pas car nous restons ici eh bien, tout l'été avec plusieurs séries, notamment une série sur Pagnol, Guillaume.
Oui, ça me tenait beaucoup à cœur parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et surtout en termes de cinéma, il a été un pionnier, donc là je reviendrai un petit peu là-dessus, sur des titres en particulier.
On parlera aussi un peu d'actualité, ce qui donnera l'occasion à Sophia d'intervenir un tout petit peu, et puis nous ferons aussi plein de blind tests. À bientôt.